disaient, ah, c'est génial, les horaires, je m'organise comme je veux. Et quand je leur demandais concrètement à quelle heure ils partaient le matin, quand est-ce qu'ils s'arrêtaient pour déjeuner, alors la pause déjeuner, ils l'ont tous supprimé, mais alors forcément avec le prisme féminin qui fait qu'elles étaient plutôt contentes parce que ça leur a fait perdre du poids. Et donc il fallait quand même vraiment pousser l'entretien assez précisément dans les pratiques pour se rendre compte de toutes ces contraintes supplémentaires, des horaires plus lourds, des pauses déjeuner amputées, du travail administratif pour rendre compte de ce qu'ils avaient effectué comme travail dans la journée, mais qui était fait là aussi le soir sur l'ordinateur familial, avec un flou et du coup une conscience de ces contraintes assez faible. Et c'est vrai que pour ce qui est de la protection sociale, ça c'est vraiment moi qui ai dû imposer les questions et tout le problème que ça pose en entretien, c'est-à-dire que c'était pas une question qui se posait. Quand ils me parlaient même de leur date de congé, aucun n'a mentionné que c'était des congés pas payés. Aucun n'a mentionné l'assurance chômage. C'est là pour le coup, avec tout le problème que ça pose, c'est vraiment moi qui ai dû imposer ces questions en entretien pour du coup m'entendre dire des choses assez vagues sur « oui, c'est pas très grave, je travaille plus en juin pour pouvoir prendre des vacances enfin, ». Voilà, une conscience assez floue des défauts de l'indépendance qui du coup sont obligés d'imposer un peu de l'extérieur avec notre regard de sociologue, mais qui apparaissent pas vraiment dans les entretiens. Bon, alors d'autres usages du régime sur lesquels je vais passer très rapidement, donc activités accessoires, injonctions pour les chômeurs, je reviens pas, je préférais voir un petit peu les différentes situations d'articulation avec le salariat. Donc une troisième partie que je vais rendre plus rapide que prévu, que j'ai appelée, avec un gros emprunt à Pierre Bourdieu, la double vérité du travail indépendant. Puisque donc en dépit des écarts qui les caractérisent et donc des difficultés auxquelles ils sont confrontés de manière un petit peu objective, il n'empêche que les auto-entrepreneurs rencontrés ont tous exprimé une forte satisfaction vis-à-vis du dispositif dont ils font usage. Alors deux raisons essentielles à cela, le régime est vu comme débloquant des situations professionnelles qui paraissaient sans issue, d'autre part cette valorisation de l'autonomie. Donc premier point, l'auto-entrepreneur est envisagé comme une solution pratique et sans engagement qui a apporté un des éléments suivants, soit du travail, soit un revenu, soit un projet. Donc effectivement, le régime a souvent permis à des gens qui ne pouvaient pas de travailler, soit parce qu'ils n'obtenaient pas de travail salarié, soit parce que c'était des petites activités au noir qui ont pu être un petit peu plus encadrées. Donc voilà, ça permet de travailler. D'autre part, ça permet de gagner plus. C'est parce que ça permet d'encaisser des recettes et d'augmenter ses revenus. En fait, le régime de l'auto-entrepreneur a jamais, dans aucun de des entretiens, n'a jamais fait perdre de revenus. Il a toujours réussi à quand même augmenter les revenus. Troisième motif de satisfaction, qui réunit un peu les deux précédents sous forme d'espoir, c'est les auto-entrepreneurs en gros au chômage qui s'inscrivent, puisque ça représente à la fois une forme d'occupation, une assurance. Parce que souvent en fait j'avais des gens qui étaient en attente de licenciement qui prenaient un petit peu l'auto-entrepreneur comme une forme d'assurance s'ils étaient licenciés et qui apportent aussi un statut, une forme d'identité sociale, ce qui est apparu dans ces entretiens. Deuxième point, si le dispositif est valorisé, c'est quand même pas seulement comme source de revenus supplémentaires, mais c'est aussi comme une modalité de travail qui offre de l'autonomie. Une liberté dont les enquêtés me parlent, qu'ils opposent aux contraintes d'un salariat duquel parfois ils sont exclus. Donc c'est pour ça que je reprenais l'expression de double vérité du travail indépendant pour voir un petit peu pour expliquer cette adhésion et donc cet engagement dans le travail des auto-entrepreneurs. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure pour ces horaires lourds. Bon, c'est des choses qu'on connaît déjà un petit peu sur les indépendants, cette valorisation de, en gros, la phrase qui est revenue dans à peu près tous mes entretiens, c'est « je peux m'organiser comme je veux ». Donc voilà, à la fois une autonomie accrue dans l'exercice des tâches, donc on se débarrasse un petit peu de la hiérarchie, bon, c'est plus ou moins clair, et une liberté plus grande du choix des horaires de travail, avec notamment aussi, je peux un peu rejoindre ce qu'avait dit Pierre sur les questions de travail domestique aussi, on s'organise par rapport aux enfants, ça peut laisser le temps libre pour chercher les enfants à l'école, etc. Et donc dernier point, peut-on alors aller plus loin et envisager, alors dans un vocabulaire qui est un petit peu plus fou qu'aldien, le dispositif de l'auto-entrepreneur comme étant un instrument de gouvernement qui porte des normes mais qui est aussi capable d'influer donc à la fois sur les pratiques et sur les représentations des usagers. En gros, quel nouveau rapport au salariat produit le fait de devenir auto-entrepreneur. En gros, de la même manière que la majorité des auto-entrepreneurs ont indiqué qu'ils étaient satisfaits du régime, ils ont aussi indiqué que c'était en général une bonne mesure politique. Donc voilà, des petits extraits d'entretien, c'est une bonne mesure, ça part d'un bon sentiment, ça permet d'arrondir ses fins de mois, d'aider les jeunes et de créer un sentiment de fierté chez les gens. Ça, c'est que des extraits d'entretien. Bon voilà, j'ai un peu, c'était une hypothèse un petit peu éloignée peut-être, mais je voulais un peu interroger ces représentations politiques qu'avaient les auto-entrepreneurs, voir si l'adoption du régime avait pu un peu changer les choses, bon, avec bien sûr le poids très faible par rapport aux grands déterminants qu'on connaît sur les orientations politiques. En gros, ceux qui se situaient plutôt à droite, qui disaient qu'ils avaient plutôt de la sympathie pour le gouvernement, avaient ces termes de bonne mesure, ça aide, ça crée le sentiment de fierté. Les enquêtés plutôt de gauche, voire certains qui étaient vraiment engagés dans des démarches syndicales, ont dû un peu développer leur discours pour justifier ce qui pouvait apparaître comme une contradiction. Par exemple, voilà, je vais en citer un des jeunes là, qui fait ce truc de décorateur étalagiste. Alors, mes parents sont plus de gauche, et même moi, je suis pas trop patronat, j'ai un peu de mal, mais au final, je me mets dedans aussi. Mais là, c'est aussi laisser une chance à tout le monde, et c'est plus une idée de gauche, plutôt que de laisser les décisions au patron. Parce que là, tout le monde peut être auto-entrepreneur, il suffit d'un euro, tu peux partir de rien et créer ton activité, et ça, c'est plus des idées de gauche, quoi. Donc voilà, avec un... Bon, l'entretien aussi avec la... Je passe sur la CGTiste. Et effectivement, on peut sentir quand même que l'expérience du changement du statut de travail par le fait d'être devenu auto-entrepreneur semble quand même renforcer une distance qui est prise avec le salariat, dans les pratiques comme dans les représentations. D'une part, le régime permet parfois de contourner le problème de l'emploi salarié ou de sa pénurie. Et ça a quand même créé, moi je trouve, ce que j'ai senti dans les entretiens, c'est que les auto-entrepreneurs n'attendent plus rien du salariat. Ils se disent vraiment, comme le veut un peu l'objectif politique, les gens se débrouillent désormais tout seuls. C'est ce que disait Hervé Novelli, plutôt que d'attendre l'aide de l'État, maintenant les gens se débrouillent tout seuls. Et d'autre part, forcément, dans l'organisation pratique, les auto-entrepreneurs s'éloignent des formes d'organisation collective qui structurent les rapports de force de la société salariale. Et donc, on a finalement des auto-entrepreneurs qui semblent assez souvent adopter le point de vue de leur employeur. Par exemple, donc la jeune architecte qui disait « On est dans un métier tellement fluctuant que les agences, elles sont obligées d'avoir une faculté de variation sur leur masse salariale. » Et donc, vraiment, emprunter un petit peu le point de vue du patron, à la fois pour justifier leurs difficultés en tant que salarié, mais aussi leur décision de s'être mis à leur compte. Donc, finalement, la revendication salariale, souvent dans les entretiens, elle a été vue, alors c'était assez pratique parce qu'on était en période de manifestation, donc c'était assez facile de les tester un petit peu sur cette vision-là. La revendication salariale, elle va être considérée comme non nécessaire, puisque finalement, ils s'organisent eux-mêmes, assez souvent comme illégitime, et en plus, on peut se rendre compte qu'elle est finalement assez impossible matériellement, puisque même dans ce service de recherche ministérielle, donc avec des gens qui étaient qui disposent des ressources pour se mobiliser, très diplômés, ils travaillent sur le même site, ils travaillent sur des questions d'emploi, de protection sociale, etc. Ils étaient incapables de revendiquer quoi que ce soit en situation d'auto-entrepreneur, puisque bon, c'est la difficulté de se mettre un patron à dos qui est potentiellement un futur vrai employeur, etc. Je ne décris pas plus précisément. Je passe à la conclusion. Donc finalement, on pourra conclure l'exposé en insistant sur la dimension de pacification sociale du régime. Il semble que le recours au régime de l'auto-entrepreneur modifie donc la perception des rapports au travail. Et finalement, ça se rapproche assez de ce que Bernard Zarka pouvait dire à propos des artisans et notamment des compagnons, puisqu'il disait « Vouloir être patron et penser à tort ou à raison qu'on a quelque chance de le devenir, c'est comprendre la position patronale et ne pas lui opposer systématiquement la position salariée présente. C'est se placer dans une logique de l'équilibration à long terme des partages momentanément inégaux des fruits du travail. » Donc, en fait, ces déplacements symboliques opérés par le régime avaient été théorisés par les concepteurs du régime qui accordaient à leur outil des vertus de pacification sociale, puisque par exemple François Hurel me disait en entretien c'est toute une philosophie humaine, parce que j'ai beaucoup sillonné le monde, et à chaque fois que j'ai vu des gens malheureux, c'est qu'ils étaient salariés, et à chaque fois que j'ai vu des gens plutôt heureux, c'est qu'ils étaient entrepreneurs. Donc finalement, Pour conclure, vous l'aurez compris, le régime de l'auto-entrepreneur marche quand même véritablement comme un outil d'invisibilisation des relations de domination dans le travail. Et c'est vrai qu'à ce titre, je me suis souvent dit que la victoire d'Hervé Novelli contre le salariat était à un niveau autant pratique que symbolique. Voilà, je m'arrêterai là.